France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Jean-Claude Pennetier. Je suis né à Châtellerault le 16 mai 1942. Ça fait 77 ans. Et je suis pianiste, je suis musicien. Et je suis aussi prêtre orthodoxe.
Jean-Claude Pennetier.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, dans ce beau pays Beauceron, dans un jour peut-être même de tempête, en tout cas le vent souffle. Le mot carrière ne fait pas tellement partie de votre vocabulaire. Vous êtes au piano, vous êtes au pupitre, vous êtes à la table, vous êtes en l'église, vous êtes un homme libre, sur les planches ou pas, en bonne compagnie toujours. Peut-être que nous pourrions dire que vous avez la force de ne pas avoir peur d'exprimer vos fragilités. Aussi, on vous pense artiste, passeur, rêveur, peut-être même un mot, je crois que vous affectionnez, musardeur.
Peut-être, je ne sais pas si j'affectionne ce mot, mais il me convient bien, hein, oui, mais il me convient bien, mais je musarde, mais je m'arrête aussi sur... je fais des haltes, et des haltes contemplatives. Je ne suis pas qu'en train d'aller d'un point à un autre. C'est le danger un tout petit peu, d'ailleurs, de quand on est attiré ou intéressé par énormément de choses, c'est de ne s'arrêter à rien. Ce que j'espère, c'est un danger que j'ai évité. Vous avez dit que j'étais libre. C'est un grand compliment parce que je suis pas du tout sûr d'être libre. Je crois qu'on met toute une vie à essayer d'être libre et à l'être vraiment parce qu'on est quand même conditionné par plein de choses. On doit jouer avec des contraintes qui sont absolument inévitables. Donc, cette liberté, où est-elle et dans quel coin de nous gît-elle, si j'ose dire, et doit-elle garder un certain pouvoir? Bon, ça, c'est un grand mystère aussi.
Vous avez le sentiment, Jean-Claude Pennetier, qu'avec le temps, cette liberté peut s'épanouir peut-être davantage?
Oui, parce que je crois que plus on avance dans l'âge, et maintenant je suis arrivé à un âge où je peux dire que j'ai quand même bien avancé, qu'on ne se censure plus tellement. Voilà, parce qu'il y a quand même toute une partie de la vie où soit on se censure, soit on pense qu'il faut être comme ça, soit on a des modèles, même inconsciemment, on tend à être conforme à quelque chose. Et il y a un moment, où, en tout cas dans mon cas, où ça n'existe pour ainsi dire plus. Ça existe toujours un peu, c'est inévitable.
Ça, c'est une façon de se libérer aussi du regard que l'on porte sur soi. On dit souvent que quelque chose comme le trac, c'est ça, c'est de se libérer de ce qu'on imagine, qu'on regarde chez nous. Tout ça, c'est un travail aussi de se départir de beaucoup de regards extérieurs.
Absolument. Je pense que le trac vient souvent d'une espèce de film que l'on se fait, c'est-à-dire que on se voit en train de jouer dans telle circonstance, dans tel public et tout. On n'est pas purement dans l'acte de jouer, mais je le dis, je l'enseigne, je ne prétends pas le faire à toutes les fois où je joue. Il y a bien d'autres fois où je suis pétrifié par le trac. Bon, et il peut y avoir d'autres raisons aussi. Au dernier concert que j'ai fait, en fait, assez bizarrement, j'avais une méforme physique, j'avais encore des douleurs dans les bras, j'avais pas le trac. Mais ne pas avoir le trac ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotion. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que des fois, les deux se mêlent, voilà, et on verse de l'émotion de jouer, qui est indispensable, à être submergé par d'autres émotions qui, elles, sont un peu moins positives.
Ce concert, je crois que c'est celui où nous étions il y a quelques semaines au Théâtre des Champs-Élysées, et on avait le sentiment, en étant dans le public, qu'en effet, il y avait une forme d'incarnation très profonde, d'être dans le présent. C'est en tout cas le sentiment de l'auditeur, du spectateur, que vous étiez pleinement dans le moment du concert.
C'est en tout cas ce que je souhaite et ce que je cherche, oui, d'être pleinement dans ce que l'on fait, dans ce qu'on est en train de jouer, dans ce que... Alors quand on a la chance de jouer des très beaux textes qui sont denses et qui nous aident aussi bien auditeurs qu'interprètes à être présents à nous-mêmes. Oui, il y a un sentiment de adhérer à quelque chose qui a fait que nous sommes là et maintenant, quoi. Mais c'est grâce aux grandes œuvres. C'est grâce à ceux qui nous transmettent des musiques qui permettent ça.
Que vous aviez joué là, Beethoven et Fauré, aussi beaucoup de la période romantique. On pense à Chopin, à Schumann, à Schubert, à Brahms, à beaucoup de compositeurs. Est-ce que Jean-Claude Pendié, si on retourne dans une première enfance, ce sont des musiques qui vous ont accompagné? La première musique dont vous vous souvenez?
Alors, la première musique, c'est pas une première musique vraiment, mais c'est quelque chose qui, je pense, qui conditionne. C'est avant que je naisse, ma mère voulait un fils musicien. Donc, elle-même était une violoniste amateur. Elle a fait de l'orchestre, un peu de quatuor à cordes, mais vraiment amateur, très, très, très passionnée. En fait, ma mère était plus fanatique de musique que moi je ne suis. Je vois la musique comme prise dans tout un ensemble de choses. Elle, c'était un peu exclusif et vraiment ça devait la sauver du monde, si j'ose dire. Donc voilà, je suis né dans ce contexte-là et j'ai commencé à apprendre à lire la musique, à écouter les notes à 3 ans et demi. Et j'avais cours de solfège tous les jours.
Par votre mère?
Non, chez une vieille dame. Enfin, une vieille dame. Elle me semblait être une vieille dame. Je me rends compte qu'elle n'était pas spécialement une vieille dame. Elle devait avoir dans les 50 ans, ce qui à l'époque me semblait être un âge canonique. Mais elle avait une pédagogie très ludique. Je me souviens, par exemple, que pour apprendre les intervalles, comme elle habitait un logement extrêmement simple, c'était pas du parquet, c'était du plancher. Donc elle traçait à la craie une gamme et il fallait que je saute d'une note à l'autre ou du do à mi ou du ré à au sol pour ressentir quel intervalle il y avait, pour le sentir dans mon corps, quoi. Et je crois que ça m'a marqué parce que souvent je dis à mes élèves, faites sentir quelle distance intervallique il y a entre deux notes. Ne jouez pas une sixte comme si c'était une seconde. Il y a do, la, bon, c'est la, fa, mi, ré, la fameuse sixte du prélude de Tristan. Enfin bon, et tous les intervalles ont leur distance et ont une tension qui leur est propre due à cette distance. Donc j'ai appris comme ça, si bien alors j'avais ce point de repère. À 5 ans, je savais lire 5 clés couramment et entendre les accords de 5 sons. Mais ça me semblait tellement évident parce que naïvement, j'entendais les notes dire leur nom. On me disait, mais cet enfant a une oreille musicale. Je me disais, mais non, c'est pas musical, c'est qu'elle me dit mi, fa, la, ré. Enfin, les notes disent leur nom. Je les entendais vraiment dire leur nom. Et puis, le premier instrument que j'ai entendu vraiment, c'est l'orgue, finalement. C'était à l'église. Et je sais que quand j'ai eu 4 ans et demi, j'ai joué à l'orgue, un petit choral pour la rentrée de la crèche, enfin, etc., etc. Donc, ma vocation, que j'ai sentie très très tôt, c'était d'être organiste. Je ne voulais pas être pianiste, je voulais être organiste. Alors, très très sagement d'ailleurs, on m'a dit, bon, c'est très bien de jouer un petit peu d'orgue de temps en temps, mais il faut commencer par apprendre à jouer du piano. En fait, j'ai fait 6 mois de violon, parce que ma mère jouant du violon, elle avait très envie que je puisse jouer du violon. Je ne sais pas si c'est par souci de me différencier de ma mère, mais apparemment, je faisais une tête épouvantable dès qu'on mettait un violon dans les mains. Donc ça a duré 6 mois, puis c'est pas allé plus loin.
Les grands entretiens de Jean-Claude Pelletier, France Musique.
Quand vous étiez avec ce premier professeur, on l'entend, Jean-Claude Pelletier, davantage un professeur de musique qu'un professeur d'instrument. Vous ne faisiez pas d'instrument, vous faisiez instrument avec votre corps, en fait, d'une certaine façon, de sentir la musique, d'apprendre les notes, les rythmes.
Elle me faisait faire un peu de piano quand même, elle me faisait faire un petit peu de piano. Mais je n'ai jamais senti tout cet apprentissage qui était avant que je vienne à Paris comme quelque chose de aride. C'était une chose naturelle et qui me semblait agréable. Bon, j'avais envie d'apprendre et j'ai toujours eu cette envie-là. Et donc, voilà, j'aurais pu continuer. J'étais à Châtellerault. Et puis, il y a eu quelque chose qui, dans ma vie, a été important. C'est que ma mère a fondé une délégation JMF. Les JMF,
Jeunesse musicale de France, c'est ça?
voilà. C'était quelque chose qui, après-guerre, était extrêmement important, était très dynamique, était très vivant. Et elle avait fondé une délégation qui était, du point de vue pourcentage sur la population de la ville, qui était la plus importante, si je dis. Donc les 500 adhérents, quelque chose comme ça, alors que c'était une ville de 18 000 habitants, ce qui était beaucoup. Donc, je suis allé au concert, et là, il y a une pianiste, Reine Gianoli, qui était une grande interprète. Donc, elle est venue, elle a été très frappée parce que j'étais au premier rang, et j'ai écouté tout son concert, extrêmement concentré, c'est ça. Donc, elle a demandé, mais qui est cet enfant qui a tout écouté, absolument? Donc, on lui a dit, mais c'est le fils de la déléguée. Et qui fait de la musique, tout ça, et elle a voulu venir à un de mes cours. Donc elle est venue, elle a demandé à parler sérieusement avec mes parents et leur a dit il faut absolument qu'il monte à Paris et qu'il travaille avec des grands professeurs. Alors il faut voir le contexte, on était quand elle a dit ça, c'était en 47,
Vous avez 5 ans.
il n'y avait pas tout ce maillage musical qu'il y a maintenant, qui a fait que cette idée de monter forcément à Paris pour faire des études sérieuses, ça ne s'impose plus. Donc mes parents ont dit oui, mais c'est notre intention, il va faire ses études à Poitiers, et puis quand il aura son bac, il va monter à Paris pour présenter le conservatoire et tout. Ce qui maintenant serait possible. Elle aurait dit non, non, mais ça c'est exclu parce que doué comme il est, il va être très très vite, il va être le meilleur coq de son village, alors qu'il n'en serait vraiment pas loin. Donc il faut qu'il soit confronté à d'autres. Et donc c'est elle qui a fait que en octobre 48, je suis arrivé à Paris et sur les conseils de Claude Delvincourt, j'ai travaillé avec Lucette Descaves pour le piano et avec Yvonne Desportes pour le solfège et puis après pour l'harmonie.
Cette première enfance, Jean-Claude Pelletier, qui se passe à Châtellerault, si on revient un instant, votre mère voulait un fils musicien, ça sous-entend que vous êtes le premier-né et vous avez des frères et sœurs ou...
J'ai une grande sœur qui a 13 ans de plus que moi, mais ma mère était une maman qui voulait un fils. Ma sœur est bien gentille de l'avoir vécu relativement sereinement, mais il y a des mamans comme ça, quoi. C'était pas une mère juive, mais elle aurait pu l'être. Elle avait toutes les caractéristiques pour.
Votre père, que fait-il?
Alors, mon père était chapelier. Donc c'était un commerçant, mais un commerçant aussi artisan, puisqu'il savait faire tout ce qui concerne les chapeaux et tout. Donc il n'est jamais monté à Paris, lui. Je suis monté avec ma mère. On a vécu à Paris dans des chambres meublées où on se faisait mettre à la porte à cause du piano. Donc j'ai connu pas mal de déménagements, être en pension de famille, chez une dame qui était elle-même musicienne et qui, là, j'ai des grands souvenirs de rencontres avec des musiciens. Donc, bon, du point de vue matériel, si je veux dire, ma vie à Paris, qui a duré 20 ans, je suis resté à Paris de 48 à 68, j'ai eu 23 adresses. Voilà, je les ai comptés. Et c'est pour ça que je connais bien Paris, en fait. J'ai pas habité tous les arrondissements, mais j'en ai fait un certain nombre. Et c'est vrai que pour un pianiste, on est souvent mal aimé.
Vous arrivez à Paris en 48, vous avez juste 6 ans. Ce quotidien qui fait changer de maison souvent, qui est un peu chahuté, vous êtes avec votre mère. Vous allez à l'école, du coup, ou vous allez directement uniquement au conservatoire? Jusqu'à quand est-ce que vous avez les deux enseignements?
Alors, j'allais au Couratmer, comme beaucoup de jeunes musiciens et de jeunes danseurs, qui était un cours privé extrêmement sélect, mais en même temps qui avait cette particularité d'être un horaire aménagé, ce qui n'existait pas encore. Et donc j'ai fait comme ça jusqu'à la troisième. Et puis après, j'ai été trop pris par le conservatoire et je n'ai pas mon bac.
C'est pas très grave, vous vous en portez très bien.
Mais les choses ne sont plus maintenant comme cela. Quand j'ai fait mes études musicales, très peu de jeunes musiciens allaient jusqu'au bachot. Et généralement, c'était les pas très bons. Et moi, j'ai eu mon premier prix et de musique de chambre et de piano alors que j'avais 16 ans. Et il n'y avait pas de troisième cycle, il n'y avait pas de cycle de perfectionnement. Donc à 16 ans, on se trouvait sur le trottoir de la rue de Madrid avec un grand vide devant soi.
Thank you.
Le final du quatrième concerto de Beethoven avec l'Orchestre de Bretagne, dirigé par Stéphane Zanderling, pour refermer ce premier épisode des grands entretiens avec le pianiste Jean-Claude Penthier. Réalisation Perrine Minguy, prise de son Stéphane Beaufis, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Flora Sternadel. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.